La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté à La vie des idées pour le dernier épisode de la saison, soit dit en passant, de La vie des idées. Alors, les auditeurs de Radio Ville-Marie connaissent Jean-Philippe Trottier, qui est l'animateur du Midi Actualité, qui est devenu Question d'actualité au fil des ans, l'émission du midi. Ils le connaissent à la manière d'un animateur, d'un intervieweur de grande culture. Ils le connaissent à la manière d'une de ces rares personnes dans le système médiatique qui est capable de poser d'autres questions que les questions attendues par les dans ce petit milieu où finalement les journalistes ont la mauvaise habitude de se répéter. Donc Jean-Philippe Trottier est un homme de culture, nous le savons. Mais nous le connaissons surtout dans la position de celui qui pose des questions et plus rarement dans la position de celui qui offre quelques réponses finalement. Ce qu'on ne sait peut-être pas, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jean-Philippe Trottier est aussi écrivain et philosophe. Il a écrit au fil du temps quelques ouvrages tout à fait remarquables. Je présente les trois. Le grand mensonge du féminisme québécois, qui proposait une réflexion sur le non seulement sur le féminisme, mais aussi sur le rôle de l'homme dans la culture québécoise. Lettre au fils, qui était une méditation sur la transmission culturelle dans notre temps. Et La profondeur divine de l'existence, qui était une réflexion sur le christianisme. Alors aujourd'hui, pour aller plus loin autour de ces questions, je reçois, vous l'avez compris, Jean-Philippe Trottier. Jean-Philippe Trottier, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et nous inversons les rôles, puisque depuis 6 ans, c'est moi qui suis dans la position de celui qui chronique à votre émission. Et aujourd'hui, je vous reçois pour que vous me parliez de vos livres, de vos réflexions, sur les grands thèmes finalement qui habitent votre réflexion.
Figurez-vous Mathieu que je suis un peu dans mes petits souliers, parce que j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté de la barrière, enfin, j'allais dire de l'autre côté du micro, mais j'ai également mon micro. C'est toujours plus facile, en tout cas pour moi, de poser des questions à autrui et rebondir tout le temps ce qu'il ou elle me répond. Alors là, maintenant, c'est moi qui vais vous donner, enfin, essayer de trouver des réponses qui mèneront à d'autres questions.
Oui, c'est une belle manière de dire les choses. Alors, j'ai annoncé, il y a 3 grands thèmes de réflexion qui seront au cœur de cette heure, finalement. La question de l'homme, d'une certaine manière, au Québec. Mmh. La question de la transmission, qui est peut-être une des plus fondamentales qui soit, et la question du christianisme, des thèmes que vous avez explorés dans vos livres. Mmh. Mais j'aimerais me permettre une première question toute simple pour bien camper les choses. Alors, on pourrait dire que chaque philosophe, chaque écrivain travaille à partir de certaines inquiétudes fondamentales, certaines angoisses, mais je préfère le terme inquiétude. Quelles sont les inquiétudes ou les préoccupations fondamentales qui sont à l'origine de votre réflexion et vers lesquelles vous revenez toujours?
La plus grosse, c'est que on va faire un peu d'autobiographie, si vous permettez.
Bien sûr.
Et j'ai grandi dans un milieu privilégié à bien des égards matériels, intellectuels, culturels, tout ça.
J'étais fils de diplomate et d'ambassadeur.
Voilà. Tout à fait. Et sauf qu'on a déménagé tout le temps. Donc, quand on était enfant, on se rend pas compte. Moi, j'ai passé mon temps à manger du veau maringot, du poulet à la Kiev et des choses comme ça. Et les jours de grand spécial, c'était des pâtes. Je n'étais jamais aussi heureux que quand je mangeais du spaghetti, que je buvais du coke. Le reste du temps, c'était des grands bordeaux coupés de vin quand on est petit, etc. Donc, c'était une enfance un petit peu à l'inverse des enfances normales. Mais j'ai aussi retenu le déracinement. On est passé d'un pays à un autre. On avait beau être dans une ambassade avec des chauffeurs et des jardiniers et tout ce que vous voudrez. On a toujours, l'enfant, tient ça pour acquis, mais surtout, ce qui l'affecte, c'est que, il perd ses amis.
Oui, bien sûr.
Donc moi j'ai perdu mes amis tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça m'a donné un sentiment de relativité des choses, que ce qui est vrai ici est faux ailleurs, je vous rappelle le mot de Pascal, vérité hors de celle des Pyrénées, erreur au-delà, et que tout est changeant, tout est relatif. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Kurosawa, Rashomon.
Je connais.
Bon, c'est l'histoire de la vérité. Une histoire a eu lieu, il y a 4 témoins qui au procès, chacun raconte sa version, et toutes ces versions se contredisent. Où est la vérité, etc. Et ce sont deux mendiants qui se posent cette question, et ils se trouvent dans un temple qui s'appelle Rashomon, un temple d'enfants trouvés, et là, on entend un vagissement. Une mère vient d'abandonner son enfant dans un panier à ce temple-là, et ce n'est plus la question de la vérité qui compte, c'est la question de la vie, la question de l'amour, la question du prochain.
Alors, donc, vous dites l'expérience du déracinement, qui est une expérience première. À quel moment pourrait-on dire vous parvenez-vous à vous fixer véritablement, non seulement dans l'existence, mais dans un pays? Je précise par là, la plupart des intellectuels, des écrivains, des philosophes, d'une manière ou de l'autre, s'inscrivent dans un espace public, hein, un espace qui est capable d'accueillir leurs préoccupations, dans une conversation nationale, pour le dire ainsi, mm-hmm. dont ils seront une voix parmi d'autres. À quel moment parvenez-vous finalement à vous fixer dans ce qui était votre patrie d'origine, mais qui n'était pas nécessairement le lieu où vous aviez vos habitudes mentales, culturelles, sociales, et ainsi de suite? À quel moment devenez-vous québécois, finalement?
Vous faites bien de préciser au présent, à quel moment devenez-vous? Cet horizon, je dirais 80 ans, peut-être? J'y tends, je dirais, de façon fort, avec des résultats plus ou moins heureux. Évidemment, ça fait 33 ans que je suis ici. J'ai senti...
Vous y êtes arrivé à quel âge, ici?
À 20 ans. Je ne vous donne pas mon âge, vous faites l'addition vous-même.
Je suis très fort en maths.
Bravo.
Vous avez 25 ans.
Merveilleux, merci beaucoup, mais ne me flattez pas trop. Mais j'ai, avec la sensibilité que j'ai réussi à sentir tous les courants, toutes les potentialités de cette société, toutes les beautés, toutes les misères. J'ai vu que c'est un pays qui est à construire, qui est à faire et qui s'y prend souvent de façon maladroite.
Vous me permettrez une question, je devance, c'est une question qui venait plus tard dans l'entrevue, mais elle m'apparaît tout de suite comme une évidence. Un de vos lecteurs m'a déjà dit, connaissant un peu votre parcours, il m'a dit « Jean-Philippe Trottier n'a pas connu l'expérience de l'enracinement rapidement, et c'est entre autres pour cela qu'il est devenu chrétien, pour avoir au moins partout sur Terre une institution dans laquelle il se sent chez lui. »
Oui et non. Chrétien, oui, parce que le Christ, je ne crois pas qu'il y ait de culture chrétienne, mais il y a un ferment chrétien. Et comme la question culturelle pour moi est si problématique, culturelle dans le sens d'ancrage, ou d'enracinement, n'est-ce pas? C'est pas clair. Je suis quand même cultivé. Mais oui, alors le christianisme est venu. C'est comme une plante dans un désert. Quand à un niveau ontologique, elle n'est pas contente, elle n'est pas satisfaite, elle ne trouve pas l'eau dont elle a besoin, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle peut, elle va essayer de synthétiser davantage d'eau, économiser davantage ses forces pour puiser encore plus profondément. Et c'est là que... me semble, se trouve le Christ.
Oui, oui, je comprends. Alors, vous nous dites...
Mais attendez une seconde. Oui. Mais l'institution, pour moi, n'est pas une patrie. Le Christ serait davantage une patrie, presque une patrie céleste. Mais grâce à l'incarnation, elle devient terrestre aussi. Évidemment que l'Église, pour moi, est une mère. Une mère que...
La possibilité d'avoir quelques repères partout dans le monde où vous dites, enfin, là, je suis chez moi?
Non, pas vraiment, non. Parce que je suis chez moi aussi, chez d'autres gens qui ne sont pas du tout catholiques. Je suis chez moi là où il y a des archétypes.
Oui,
parce que
sûr.
Tous les archétypes se rejoignent finalement, quand on creuse profondément. Et en fait, c'est là, presque par défaut, que je cherche ma patrie. Je trouve mon miel à droite et à gauche. Je l'ai trouvé en Russie, je l'ai trouvé en Amérique latine, je l'ai trouvé aux États-Unis, au Canada anglais, si vous voulez aussi. Il y a des choses que j'aime beaucoup là-dedans. J'ai la plus grande difficulté à établir une hiérarchie d'appartenance, une hiérarchie d'allégeance et de fidélité.
Vous me dites, néanmoins, il faut habiter une société plutôt qu'une autre.
C'est juste.
Et c'est la société québécoise que vous habitez. Vous êtes arrivé ici dans une société... que vous dites tantôt un peu malade peut-être, ou à tout le moins, qui peine à ressaisir sa propre culture. Il y a toute une réflexion chez vous sur la transmission culturelle. D'ailleurs, je pense ici à votre livre « Lettre au fils ». C'est-à-dire, y a-t-il réflexion plus directement connectée à la question de la transmission, que qu'est-ce qu'un père peut transmettre à son fils, que peut-il lui enseigner? Vous dites « société plutôt malade au Québec ». Qu'est-ce qu'il y a de déréglé ici, fondamentalement, dans la transmission culturelle?
Je dirais un rapport à la parole.
C'est-à-dire?
Un rapport à la parole, c'est-à-dire que... nous sommes une société qui a été privée de ses élites après le traité de Paris, on ne reviendra pas là-dessus. Et c'est en général les élites qui portent une parole, qui sont chargées de la transmettre. L'élite n'est pas puissante pour rien, c'est qu'elle a une responsabilité particulière dont elle s'acquitte rarement. Mais bon, c'est ça le modèle que je respecte. On a fait feu de tout bois. On s'adapte, on a une plasticité de conviction qui est surprenante ici. Écoutez, on est passé d'une société presque théocratique, avec la caricature qui vient avec, et on a sauté en quelques années dans une société ultra-moderne. Ce que l'Europe avait pris 3 ou 4 siècles à faire, de passer du monde médiéval, si vous voulez, à un monde moderne, il a fallu passer par la Renaissance, les guerres de religion, la réforme, la contre-réforme, les Lumières, etc. Nous, on a fait ça en quelques années. C'est rapide, et ça témoigne d'un génie d'adaptation. Sauf que ce génie se paye d'un prix, c'est que les convictions, à mon avis, sont mal ancrées. On a de la difficulté à défendre nos fidélités, nos allégeances, notamment devant l'étranger. J'ai toujours été surpris au Québec de voir des gens, surtout des hommes du reste, entre eux, ah ça parle fort, ah c'est convaincu, ah oui ils savent très bien où ils se tiennent et puis ils mourront pour ce qu'ils pensent. Faites venir un étranger, et quand je dis un étranger, je dis un nom de souche. Je n'ai pas dit quelqu'un qui est d'ailleurs ou qui n'a pas de nité.
Quelqu'un qui n'est pas dans la grande famille des Gingras, Touchettes, Tremblay,
Côté. Exactement, voilà. Alors là, soudain, la parole devient un peu plus labile, un peu plus faible. On est moins sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentrer dans du slogan. On va essayer de combler ce déficit de conviction par une posture peut-être plus forte.
Vous dites, plus particulièrement chez les hommes, c'est un thème qui est aussi très présent dans votre réflexion, c'est-à-dire votre livre « Le grand mensonge du féminisme québécois » dont le titre est en cache un autre, finalement, c'est « Méditations sur l'homme québécois » d'une certaine manière.
J'aurais préféré ce titre-là, mais vous demanderez à mon éditeur pourquoi il a choisi le premier.
Alors, oui, ben, je vois très bien. Alors, je vous pose néanmoins la question là-dessus. Vous dites « Particulièrement les hommes ». Et pourquoi « Particulièrement les hommes » ont cette espèce entre eux, dans la tribu, dans le clan. Ils décident de jouer à King Kong, ils se prennent pour très puissants, ils mettent le poing sur la table. Ouais. Et d'un moment à la figure de l'étranger, soudainement, ils se liquéfient. Comment expliquez-vous ça?
Je dirais qu'il y a eu une défaite dans l'histoire. Quand un peuple est défait par un autre peuple... Enfin,
la terrible conquête.
Oui, la terrible conquête. C'est pas un génocide, c'est pas la Nakba à la palestinienne. Ça a été de façon beaucoup plus douce, si j'ose dire, mais souterraine, insidieuse, elle se fait encore sentir aujourd'hui. La première armée qui défend un peuple, c'est une armée masculine traditionnellement.
En général.
Hein? Et donc, quand elle est démoralisée, mais qu'est-ce que... La deuxième armée, celle de réserve, c'est l'armée féminine. Regardez les Noirs aux États-Unis. La figure forte, c'est le pasteur, le joueur de jazz, ou la femme au foyer, ou la femme qui, elle, tient l'histoire, la transmission et la famille. C'est un pouvoir par défaut, en un sens, un pouvoir d'accablement. J'ai déjà entendu ça.
Mais si je comprends bien, l'homme ici devrait avoir, il y a chez vous une réflexion très forte sur la différence sexuelle, c'est-à-dire oui. vous n'êtes pas de ceux qui versent dans l'indifférenciation au nom d'une égalité mal comprise. Cela dit, donc, quelle devrait être la fonction de l'homme et de quelle manière ne l'occupe-t-il pas dans la culture qui est la nôtre?
L'homme doit être, à la limite, présent. C'est facile à dire. Mais il doit être le. Je dirais que c'est presque une fonction sacerdotale. Il y a eu le prêtre ici. La fonction masculine ici a été coupée en deux par le prêtre et l'homme, le géniteur, si vous voulez, le papa. OK?
C'est une masculinité terriblement éclatée ici. Le coureur des bois d'un côté, le prêtre de l'autre.
Exactement.
Et dans l'autorité formelle, alors il parle anglais. Alors une espèce de masculinité éclatée qui n'est pas parvenue à s'instituer.
Et à s'unir. Alors, oui, le prêtre était un homme, c'est un homme en robe. L'homme hétéro, si vous voulez, l'homme, à l'époque, on disait même pas ça, mais l'homme avec madame et les enfants allait souvent travailler ici, c'était pas sur le champ, allait travailler pour les Anglais. Là, je pense surtout les prolétaires de Montréal, fin 19e, début 20e siècle. Donc, il était tout le temps confronté à une altérité qui entravait.
Qui le dominait,
exactement. Le coureur des bois avait cette liberté, mais il fuyait tout le temps l'autoritarisme de quelqu'un derrière. Donc, il y a jamais eu ici, je trouve, sauf dans l'Église, si vous voulez, avec des hommes en robe, avec une autorité venue de Rome, l'homme n'a jamais posé, je trouve, un geste fort, un geste fondateur. Je ne crois pas que l'indépendance soit ce geste fondateur, soit dit en passant. Mais il y a ici aussi chez l'homme une faculté de fuite qui est extraordinaire. Fuite dans l'humour, fuite dans l'évasion, fuite dans l'évasif. Quand mon bouquin est sorti le premier en 2007, Le grand mensonge du féminisme, il fallait voir les réactions.
Et quelles étaient-elles?
On se pinçait le nez, on me disait, ah oui, il n'est pas encore grandi, il est misogyne. Alors curieusement, de la part de certains intellectuels, je l'ai su par la bande 3-4 années plus tard, on m'avait dit quel courage il a, il va se faire crucifier. On ne me l'avait jamais dit directement ça. Mais ça a jeté dans ce petit milieu-là, ou dans celui que je connaissais en tout cas, une sorte de malaise qui s'est soldée par un silence total.
Mais je reviens sur cette question. Vous dites l'homme doit être une présence. C'est-à-dire, pourriez-vous développer un peu sur ce thème, c'est-à-dire sur la parole masculine, la fonction masculine et son inachèvement ici?
La fonction, si vous voulez, pour parler psy, l'homme a pour fonction de couper le cordon entre la mère et l'enfant,
bien sûr.
Fils ou fille, peu importe, et de signifier à cet enfant qu'il y a un monde autour de, au-delà du monde maternel. Évidemment que l'enfant a besoin du monde maternel, c'est évident, d'accord ? Peu à peu, l'homme qui représente, qui n'est pas la charge de la mère, il n'a pas tous ces fils qui relient la mère à l'enfant, l'homme à ce titre-là plus libre. Donc c'est l'homme qui va instituer institution, l'enfant vers le monde réel, vers le monde objectif, si vous voulez, vers le monde de l'histoire. Il s'est passé autre chose. Je viens d'une lignée. Le nom du père vient du fond des âges. Il a été transmis et je suis le dernier récipiendaire. C'est à toi que je passe le relais.
Alors, je passe de l'homme à la transmission. Vous avez écrit Lettre au fils, qui est probablement votre livre le plus philosophique en un sens. C'est-à-dire, vous confessez le fond de votre philosophie dans cet ouvrage, paru chez Libère il y a 3 ans, je pense.
En 2012.
Non, oui, il y a 4 ans. Et dans cet ouvrage, donc, vous prenez d'une certaine manière la position du père qui dit voilà ce que je peux et ce que je dois transmettre.
Voilà.
Donc vous décidez d'occuper vous-même cette fonction que vous croyez carencée dans notre culture. Vous dites je serai le père qui manque ici d'une certaine manière dans ce livre. Alors qu'est-ce que vous cherchez à transmettre ? À partir du moment où vous dites l'homme doit assumer une certaine fonction, il doit ouvrir vers le monde commun, il doit assumer plutôt que fuir. Donc, vous devenez le père pour quelques instants. Que cherchez-vous à transmettre alors dans cet ouvrage ? Quel est le bagage premier de la transmission ?
La grandeur, peut-être. La grandeur, pas la grandiosité, pas l'écrasement, pas le pouvoir pour revenir au passé. Je ne suis pas du tout passéiste là-dedans. Mais un sentiment de fierté que tout garçon peut ressentir quand il joue à des jeux de guerre, à des jeux dangereux, à des choses comme ça. Un enfant veut être un héros, un garçon veut être un héros. Et ça, c'est aujourd'hui un mot qui est un petit peu risqué. Évidemment,
on est vers un stéréotype sexiste écrasant la complexité affective de l'enfant.
Tout à fait. Et combien ? Écoutez, je suis prêt même à réfléchir à ça. D'ailleurs, il y a une lettre qui s'intitule Le tueur. Combien de tueurs en série ? Combien de cinglés ? D'accord ? Sanguinaires ont été des garçons normaux. Est-ce qu'ils voulaient être héroïques ? Est-ce que leur appel à l'héroïsme a été compris dans l'entourage ? Est-ce qu'un père est venu relayer cet appel pour servir de dépositaire ou de projecteur, si vous voulez, pour pouvoir aider le garçon à devenir adulte, à maintenir son idée de grandeur ? Mais en la faisant passer de l'infantilisme à l'âge adulte. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pères qui aient fait ça. Et les institutions encore moins.
Alors, mon Dieu, vous me conduisez là où je croyais que vous ne voudriez pas aller avec ce beau mot d'institution. C'est-à-dire, ceux qui vous lisent, ceux qui vous écoutent et ceux qui vous parlent diraient que vous avez, non pas la fâcheuse manie, mais la tentation souvent de fuir le politique ou du moins de le transcender, ou à tout le moins de ne jamais vous y arrêter, comme si ça ne pouvait jamais être le cœur de votre réflexion. Ce que je peux comprendre. Il n'en demeure pas moins que je vous place pour un instant, mentalement, dans une position où la question de la transmission ne se poserait plus de manière spirituelle ou métaphysique, mais appelons ça dans la position d'un ministre de l'Éducation. Jean-Philippe Trottier, ministre de l'Éducation du gouvernement du grand...
Bon côté.
Pourquoi pas, dans la grande coalition nationale. Alors, nous avons tous le sentiment au Québec qu'il y a quelque chose de brisé dans la transmission culturelle. Nous ne savons plus à quel monde commun introduire les jeunes générations. Nous ne savons plus nécessairement quelle vertu transmettre par l'éducation, alors qu'il y a aussi une éducation des vertus. Alors, vous parlez d'une certaine grandeur, je vous demande d'aller un peu plus loin. Que devrait-on transmettre que nous ne transmettons plus, ou que nous n'avons jamais transmis même peut-être ?
Je reviens au sentiment de grandeur. L'âme humaine, ça c'est Simone Veil que je vous recrache. La philosophe qui est morte en 43, que j'adore.
Avec un W.
Oui, un W, pas un V. L'âme humaine a besoin de grandeur. Elle est faite pour la grandeur. Malheureusement, cette grandeur peut être pervertie quand elle n'est pas respectée, et ça fait terroriste, ça se pervertit de mille et une façons. Et le politique, pour moi, est une chose très importante, une réalité très importante, contrairement à ce que vous dites, Mathieu. En revanche, le politique fait partie d'une hiérarchie de réalité. Au-dessus des politiques, je dis qu'il y a le métapolitique. Et ça, le métapolitique devrait vous rejoindre parce que vous parlez beaucoup du sentiment, pas du sentiment émotionnel, mais du sentiment noble, d'accord, qui devrait animer un peuple. en tout cas une collectivité, autour de certaines figures historiques, autour de certains événements, autour de certaines beautés qui nourrissent l'âme. Le métapolitique, malheureusement, est une réalité qui, en politologie, je pense, n'a plus aucune créance. C'est purement subjectif.
C'est la réflexion sur l'hégémonie culturelle.
Il y a ça aussi. Le métapolitique n'est pas, comment dirais-je...
Définissez un peu métapolitique pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme.
C'est ce qui est au-delà du politique, c'est ce qui fonde, je dirais même spirituellement, le politique. Par exemple, j'ai toujours été frappé au Québec... Quand François de Laval et Marie de l'Incarnation ont été canonisés il n'y a pas longtemps, silence radio, sauf dans les milieux religieux et une ou deux publications. Pourtant, ce n'étaient pas des crétins. François de Laval appartenait à une des 10 grandes familles royales de France. Sa famille était copine avec Henri IV et les Bourbons. Il était à la tête du plus grand diocèse catholique du monde. C'est pas rien tout ça.
Il y a eu un peu plus d'écho, cela dit, quand c'est le frère André.
Oui, alors juste
le frère André, parce que c'était la religiosité, la religion populaire cette fois.
Je critique pas ça du tout. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Autant la Nouvelle-France est inaccessible à la mémoire, autant que la religion populaire demeure dans le souvenir
alors,
de chacun.
Alors voilà, justement. Et ce que je reproche à beaucoup de nos penseurs, notamment nationalistes ici, c'est que Québec année zéro, en fait, c'est Canada année zéro, c'est 1763. Tout commence avec la cession ou la défaite, comme vous voudrez. Mais il y a 150 ans d'histoire, d'épopée, de diaprure, de gestes au féminin. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. On n'ose pas puiser là-dedans. Parce que ce n'est pas... Est-ce que c'est historisable? A-t-on honte de cette grandeur?
Ah non, mais je me permets là-dessus d'élargir un peu le propos. Oui. J'entends autour de moi régulièrement, de plus en plus... des intellectuels, des écrivains, souvent des gens qui ne sont pas dans l'institution, soit dit en passant. Donc, ils n'ont pas respecté les codes de la subvention académique, ce qui est, on le sait, quelque chose de fondamental.
Donc, ils mangent des bines et des pâtes.
Ils peuvent manger un peu mieux quelquefois, mais ils vivent un peu dans la marge. Et je sens chez eux un intérêt nouveau pour la Nouvelle-France. S'ils sentaient que, vu l'épuisement du récit de la Révolution tranquille, qui aurait dû aboutir dans une indépendance rédemptrice à certains égards, c'est-à-dire nous délivrant de la conquête, assurant la fondation québécoise, plusieurs se tournent aujourd'hui devant l'épuisement de la principale ressource de sens que nous avions depuis 50 ans, la Nouvelle-France redevient source d'enquête chez des gens qui ont le sens de la durée, qui veulent trouver une grandeur. Est-ce que c'est aussi ce que vous trouvez dans la Nouvelle-France, la grandeur oubliée du peuple québécois?
Mathieu Bocoté, c'est une question presque d'évidence et une loi psychologique. Si vous avez subi un traumatisme à 10 ans, vous avez 10 ans avant le traumatisme de bonheur et d'un humus, d'un terreau à partir duquel vous pouvez vous reconstruire. Si votre traumatisme a lieu à 2 ans, vous n'avez plus que 2 ans, c'est plus difficile. Si le traumatisme a lieu à 20 ans, ben là vous avez quand même une marge de 20 ans pour pouvoir vous reconstituer. Le traumatisme de 1763, quand on n'arrive pas à le dépasser, quand on a fait le tour de la question depuis 1763, mais il faut aller vers ce fond historique qui devient également fond ontologique et fond affectif, si j'ose dire.
Qu'est-ce que vous trouvez en Nouvelle-France que que le Québec moderne ne réussit plus à repérer, à trouver, à ressentir, à explorer?
Un rêve mystique, un rêve d'espace, un rêve de rencontre avec l'autre, un rêve... Une geste, je vous disais, j'adore ce mot-là, une geste, une épopée. Il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire. Même chez les Acadiens, si vous voulez, avec les Micmacs, ça a été un siècle pour eux, mais je dirais pas de pur bonheur, mais il s'est passé quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse le politisable. Et c'est ça qu'il faut retrouver si on veut redonner de l'élan à ce peuple, et si on veut rendre ce peuple agréable, en tout cas acceptable aux yeux des nouveaux venus, qui préfèrent souvent, et je les comprends, écouter les sirènes fédéralistes, qui sont plus stables, plus riches, plus fréquentables, si j'ose dire, n'est-ce pas? Si on veut contrer cette propagande, si on veut proposer autre chose, il faut qu'on joue à un autre niveau ontologique. Ce qu'on a au Canada, qui est fort respectable, à mon avis, on n'a pas la force de jouer leur jeu. On n'a pas la force de jouer dans leur catégorie et dans leur histoire
dans
à eux.
Dans la catégorie de la raison d'État.
En un sens. Mais tout le langage vient d'Ottawa. C'est à nous de trouver notre propre langage et on a 150 ans de la Nouvelle-France qui nous permettrait de le faire et d'aller puiser là-dedans. Il y aurait un énorme chantier à faire pour faire que le Québec ait eu 4 siècles.
Qu'est-ce qu'il y a d'encore vivant de la Nouvelle-France dans le Québec d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose encore, nonobstant le simple fait du Québec, hein, la belle formule de René Lévesque qui disait que nous sommes ce qui reste aujourd'hui de la belle histoire de l'Amérique française. Alors qu'est-ce que, au-delà du fait politique québécois, qu'est-ce qui reste selon vous de l'inspiration de la Nouvelle-France au Québec?
Bon, je veux bien la toponymie, tout ce que l'Église a fait, mais ça c'est une chose. La toponymie ne dit pas grand-chose à qui que ce soit maintenant aujourd'hui. Je dirais que c'est le Canada français. Le Canada français a encore, ce n'est pas un concept politique, si vous voulez, c'est un concept presque, c'est sentimental, c'est mystique. On a gardé au Canada français, regardez là les prairies, ils sont pas très nombreux.
Vous parlez des Canadiens français hors Québec.
Surtout, ils ont gardé ce sens de l'espace, ils ont gardé, je parle notamment des gens dans les prairies. Il y a quelque chose, ils ont quelque chose à nous dire de comment ils ont habité l'espace. Tout le métissage qu'il y a eu autour de Louis Riel, c'est pas rien, il y a quelque chose, là je parle comme chrétien, il y a un levain dans la pâte là. Je pense que la politologie moderne s'est singulièrement appauvrie en occultant toutes ces données, toutes ces réalités qui échappent à la systématisation du langage.
Vous devancez de quelques minutes, puisque j'avais l'intention de consacrer la deuxième partie de notre entretien sur la question de votre rapport au christianisme en partie. Mais il y a une notion qui permet de faire un pont. Vous nous invitez finalement, le Québec moderne se définit à partir de lui-même. Il est autoréférentiel à bien des égards. Il se croit comme là où l'histoire de l'Amérique française peut se poursuivre. La vie française en Amérique se poursuivra ici, nulle part ailleurs. Ailleurs, elle peut végéter, elle peut survivre, mais elle ne peut plus vivre. Ouais. Et vous nous invitez, à décentrer le regard, pour le dire ainsi, et à se tourner vers les marges, comme s'il y avait une fécondité souterraine ou secrète des marges qu'il fallait, comme s'il y avait une expérience des marges qui pouvait alimenter un Québec qui n'avait plus voulu se définir par l'expérience des marges depuis 50 ou 60 ans. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette espèce d'expérience des marges, politiquement ou culturellement, j'entends, on y reviendra tantôt sur le plan du christianisme, mais qu'est-ce que vous trouvez dans l'expérience de ces marges qui nous manque fondamentalement?
Il y a deux vers d'Alfred de Musset. Je vous réponds directement, n'ayez crainte. Dans la nuit de mai, Musset est un poète fabuleux du 19e siècle en France, 19e disais-je. Ses vers sont du velours, disent les acteurs quand ils jouent du Musset. Il dit « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. » Je ne parlerai pas de marge, Mathieu, je parlerai de chanter ce territoire qui nous échappe, de chanter la perte, de faire de ce ratage ou de ce ratage tiédasse, d'en faire quelque chose au moins de tragique. Karen Blixen, que Hannah Arendt citait, elle citait notamment une phrase de Karen Blixen qui est à la base de la psychanalyse aussi, si vous voulez. Toutes les histoires, enfin je la cite mal, toutes les tragédies peuvent être surmontées si on peut en faire un récit, un discours, une histoire. Que l'on fasse une histoire de ce qui n'a pas abouti, au lieu d'avoir le disque rayé de « on est né pour un petit pain, on a raté », que si, oui, on le sait. Que l'on prenne acte de cette douleur, pour qu'on la chante, pour en faire une nouvelle épopée. Qu'on redevienne tragique. Je vois très peu ce trait au Québec. Vous êtes peut-être un des seuls à parler de la part tragique de l'histoire. Je ne parle pas de dolorisme, Mathieu. Je parle de tragique. Le tragique permet, seul le tragique permet de pardonner à l'histoire, d'accéder à un niveau autre, et non pas de passer sur des bases nouvelles, mais de se pardonner nos ratages et de sortir de l'opposition stérile Ottawa-Québec.
Opposition stérile, mais opposition néanmoins qui existe politiquement.
Elle existe, je veux bien qu'elle existe.
Quand je dis que vous fuyez un peu le politique, c'est que vous avez, je me trompe, vous avez tendance à se considérer que en dernier instant, c'est un domaine secondaire, qui n'est pas inexistant.
Non, je vous parle encore de hiérarchie. Le politique est nourri du métapolitique. Évidemment qu'une caste sacerdotale, des brahmanes québécois, par exemple, ne pourraient pas faire l'indépendance du Québec. Il faudrait qu'il y ait des politiciens, il faudrait qu'il y ait des Bocotés, tous vos copains, tous vos alliés, enfin tous les gens. Il faudrait qu'il y ait du monde aussi qui mette la main à la pâte. Mais sans Brahman, vous n'allez pas très loin.
Non, non, c'est la part, ce que Thibaudet appelait le spirituel de toute cause politique, la part qui transcende.
Et ce qui est aussi, ce qui correspond tout à fait à la tripartition des sociétés indo-européennes, la caste sacerdotale ou les Brahmanes, la caste guerrière et la caste des producteurs. On ne peut pas couper une société d'une de ses castes, de sa caste sacerdotale.
Alors nous passons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite avec Jean-Philippe Trottier pour cette conversation à propos de son parcours, de son œuvre, et nous verserons sur la question du christianisme.
Vous êtes à l'antenne de Radio VM.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à... Bon, j'allais dire à question d'actualité, pardonnez-moi, à la vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Et je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Trottier, qui est par ailleurs l'animateur à la station de questions d'actualité. Alors, quoi qu'il en soit, notre discussion portait sur les grands thèmes qui traversent la pensée de Jean-Philippe Trottier. Le rapport au passé, le rapport à la transcendance, le rapport la part de la Nouvelle-France, la part mythique et mystique probablement de la Nouvelle-France dans l'identité québécoise. Donc tous ces thèmes qui traversent sa réflexion. Je vous invite d'ailleurs, je redis le titre de ces trois livres, Le grand mensonge du féminisme québécois, Lettre au fils et La profondeur divine de l'existence.
Le grand mensonge du féminisme, point.
Oh, pardonnez-moi, Le grand mensonge du féminisme.
Mais bon, c'est
alors,
québécois, oui.
C'est trois ouvrages qui ne sont pas des, je me permets de le dire, vous me permettrez de vous complimenter en ondes, qui ne sont pas de ces livres académiques que les gens publient régulièrement pour ajouter une ligne à leur CV. Vous écrivez ces livres avec votre sang, d'une certaine manière. C'est un livre dans lequel vous vous jetez existentiellement. Mmh. Donc, ce sont des livres qui parlent à l'âme, qui trouvent, lorsque vous trouvez les lecteurs, je crois que les lecteurs en sortent transformés. Votre dernier livre, La profondeur divine de l'existence. Un livre assez absolument remarquable où vous nous invitez, le propos est à peu près le suivant, pour comprendre le christianisme, il faut se replacer dans la situation de ceux qui ont fait la rencontre première du Christ. C'est-à-dire, il y a bien évidemment 2000 ans d'histoire, il y a bien évidemment l'histoire de l'Église, il y a la splendeur architecturale de l'Église, il y a la beauté de la tradition, il y a la puissance des philosophes, mais au-delà de tout ça, vous dites, il y a une expérience première que nous devons être capables de faire à nouveau si nous voulons comprendre, c'est-à-dire, vous dites, il y a ce type qui se promène quelque part en Palestine que des gens décident de suivre. Hein. Ils abandonnent tout, ils décident de le suivre. Et de là, d'être une révolution, une religion qui va révolutionner le monde. Et dans votre réflexion sur le christianisme, il y a, vous me corrigerez, une attention tout à fait particulière aux marges. Aux marges existentielles, comme s'il y avait une vérité du christianisme qui se révélait dans les marges. Vous nous dites, évidemment, il y a l'institution, il ne faut pas cracher dessus. Évidemment, il y a le bourgeois catholique et l'aristocrate catholique qui font leur travail, il ne faut pas les rejeter. Mais il y a peut-être une vérité plus grande ou une vérité tout à fait singulière chez les éclopés, chez les marginaux, chez les exclus, chez les blessés, chez les maganés, pour le dire ainsi. Est-ce que je me trompe en disant que vous abordez la question du catholicisme à la fois donc par la figure première de la rencontre du Christ en faisant non pas l'économie de la tradition, mais en nous disant on y reviendra après, et ensuite à travers une attention très particulière aux différents marginaux par lesquels on peut apercevoir le Christ?
Oui, il y a une expérience personnelle d'abord, la rencontre avec le Christ, si toutefois on sait le nommer. Parce que quand il arrive, on ne sait pas trop que c'est lui, et c'est quand il est parti qu'on sait qu'on avait le cœur brûlant. Pour l'histoire des marges, je n'aime pas ce mot-là. Parce que marge implique une centralité, une norme. Et donc, ceux qui ne sont pas dans la norme sont marginaux.
Je ne crois pas qu'il y ait chez vous une contestation de la norme ou de l'institution, à moins que je vous ai mal lu.
Non, l'institution et la norme existent, c'est juste. Et je préfère le mot profondeur.
D'accord.
Marge veut dire qu'on est, encore une fois, au même niveau ontologique que le centre. Alors que on est dans trois dimensions, si vous voulez. Oui. C'est bien beau la tradition, c'est bien beau l'institution, c'est bien beau les boulevards, les métros, les hôpitaux, les écoles, les ordres religieux et tout ce que vous voudrez. Mais tout cela sans... Je repose la même question que saint Augustin ou saint Irénée de Lyon. À quoi me sert que Jésus-Christ est ressuscité si pour moi il n'a pas ressuscité? Tout ça, je peux avoir tous les traités de philosophie, je peux avoir toutes les églises au monde. Si Jésus n'a pas ressuscité pour moi, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir cette première expérience, au moins en avoir un goût. Et je reviens au métapolitique, c'est la même chose en fait. Le goût du métapolitique pour ensuite s'engager en politique. Donc la même chose s'applique pour cela à la religion. Les éclopés, les maganés, j'en fais pas non plus un absolu. Je dis pas parce qu'un tel est magané, ben Jésus vit en lui. Enfin, le Christ est partout. Il y a une option préférentielle pour les éclopés, les maganés, les marginaux, c'est juste. Il y a dans le Christ deux dimensions fondamentales qui, en tout cas, moi, me bouleversent. C'est le Christ en croix qui a été souillé jusqu'au maximum possible sans qu'il perde visage humain. Il est arrivé à l'extrême limite de la déshumanisation et il a maintenu, comme Job du reste, son humanité. Jésus a été transfiguré au mont Tabor entre Élie et Moïse. Il n'a pas quitté non plus son visage humain. Donc c'est pas quelqu'un... Il est resté homme tout le temps. Il a été aux confins de l'expérience humaine, mais les confins inimaginables pour vous et pour moi. Rien que ça, ça me bouleverse. Ensuite, comment a-t-il pu faire ça? Ben, la réponse chrétienne, c'est qu'il est fils de Dieu et il était sans péché. Vous et moi sur la croix, ce ne serait pas un très joli spectacle, je pense.
Ah non, pas du tout.
Hein? Lui non plus, mais bon, il y a valeur archétypale chez lui.
Je vous pose une question qui n'est pas vraiment présente dans votre œuvre, mais à laquelle je crois que vous pourrez répondre néanmoins. Il m'arrive très souvent, quand je rencontre des amis catholiques, soit de votre tendance, soit d'une autre, mais bon, il y a différentes sensibilités dans la grande famille du catholicisme.
Effectivement.
Et il y a une foi partagée, une conviction partagée, c'est la résurrection du Christ. Mm-hmm. Pour le non-croyant que je suis, il y a quelque chose... Il faut qu'on réfléchisse pour parvenir à comprendre ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, vous croyez que le Christ est ressuscité. OK, d'accord. Alors, de ce point de vue, je témoigne au nom de mon époque qui ne parvient plus à croire. C'est-à-dire, la disposition à la croyance existe encore. Elle se jette dans les spiritualités marginales, comme j'aime dire, quelquefois, on est passé du Christ au Christo. On a la fascination, les religions politiques ont joué un rôle au XXe siècle. Le besoin de sacré s'est investi dans la cité, dans les idéologies.
Vous rejoignez mes propos, Mathieu, c'est bien ça.
Ah, mais ça, non, j'ai toujours cru que cette espèce de quête de transcendance existe. C'est un besoin anthropologique, un besoin existentiel. Mais là où j'en arrive, c'est que le commun des mortels aussi, on ne parvient plus à croire à l'évidence au cœur du christianisme, ou tout le moins à l'évidence, ce qui est pour vous une évidence, ce qui pour d'autres ne l'est peut-être pas. Comment expliquez-vous cette difficulté qu'ont nos contemporains, surtout en Occident, à croire à ce que toutes les générations précédentes ont cru?
Celui qui dit qu'il croit, est-ce qu'il croit vraiment? Celui qui dit qu'il ne croit pas, est-ce qu'il ne croit pas vraiment? Il y a une question de vocabulaire là-dedans. La culture chrétienne est en voie d'évaporation en Occident. Ça, c'est gravissime. Et je reviens à la fonction paternelle de transmission, l'institution en crise, etc. Ça se, si vous voulez, ça it spills over. Ça déborde sur le christianisme aussi. Donc, manque de culture pour commencer. Problème sociologique aussi, c'est qu'on vit dans des mondes atomisés. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ton droit, c'est ton droit, mon droit, c'est mon droit. Il n'y a plus de sentiment d'unité. C'était l'Église qui assurait l'unité pendant des siècles dans les sociétés, enfin, en tout cas, européennes. Elle ne joue plus ce rôle-là. Et il y a un désenchantement après tous les scandales, après les siècles d'idéologie. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à faire que le christianisme s'est évaporé. Et je reviens à votre définition des marges, encore une fois. Ben, c'est justement par... les simplets, par ceux qui n'ont pas bénéficié des progrès de la modernité, que quelque chose peut perdurer. Les sociétés traditionnelles n'ont peut-être pas eu le privilège d'accéder à la modernité. Elles ont quand même gardé une intelligence de la tradition, de la terre, du cosmos, une fidélité à certaines choses que nous, tellement gorgés de nos puissances technologiques, politiques, sociologiques, on s'est dit qu'on n'a plus besoin de la religion maintenant.
Il y a dans votre livre une scène, à moins que vous l'ayez racontée dans une entrevue avec moi, c'est tout à fait possible, mais je pense que c'est dans votre livre, c'est je crois que c'est quelque part dans, en Russie ou en ex-Union soviétique.
Saint-Pétersbourg.
Bah, alors, bah, puisque la scène, vous l'avez déjà en tête, je vous invite à la décrire parce qu'elle elle représente bien, à mon avis, quand vous parlez cette foi des humbles qui voient des choses que les esprits qui se veulent sophistiqués ne voient plus.
J'essaierai de ne pas avoir les larmes aux yeux parce que c'est une scène qui me bouleverse tout le temps. Je suis dans une église devant l'iconostase, je regarde s'il est simple, il y a plein de monde qui passe parce qu'il y a des touristes aussi. Et deux bonnes femmes sont là, à la soviétique. Et elles contemplent l'iconostase. C'est un genre de Laurel et Hardy féminin, une grande asperge et une petite boulette, habillée en trench coat gris sale, un fichu délavé. Des sacs, vous savez, à la soviétique, des trucs en plastique recyclés à l'infini qui sont poisseux, gras et translucides à force d'être gras et sales. Il y a des poireaux, du céleri, des carottes qui dépassent. Elles sont là, mais presque bovinement, en train de regarder l'iconostase. Je dis, merde alors, elles sont là. Elles ne le savent même pas. Je regardais ça. Alors l'église, je m'en foutais complètement. Je regardais ces deux femmes regarder l'iconostase. Elles étaient dedans. Je me suis dit, mais si je vais les interrompre pour dire quelle est votre expérience, elle m'aurait regardé en disant, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? On ne vous comprend pas. Vous avez l'air émerveillé. Non, c'est vous qui m'émerveillez. C'est une expérience. À la limite, on n'est même pas capable de parler d'une expérience mystique. Enfin, j'ai regardé ça comme... Ça me rappelle d'ailleurs un très beau fabliau du XVe siècle, bourguignon, le jongleur de Notre-Dame, qui a été mis en musique, en opéra par Massenet. Le jongleur de Notre-Dame, c'est un saltimbanque qui ne sait faire que des pitreries et des gauloiseries dans les foires publiques au XVe siècle. On le retrouve, des moines sortent de la monastère en plein hiver et retrouvent un corps gelé, encore vivant. Alors, c'est ce bonhomme-là. Il le ramène au monastère et il le ramène à la vie et lui demande, au bout d'un certain temps, écoute, reste avec nous le temps que l'hiver finisse et tu me dis, mais il faut que tu participes à l'économie du monastère, comme chacun. Sais-tu tes prières en latin? Non. Sais-tu balayer? Non. Sais-tu aller chercher de l'eau? Non. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais juste te dire des cochonneries devant tout le monde et jongler. Ils sont bien emmerdés. Alors, évidemment, ils le gardent quand même et puis un soir, ils font un dernier tour de cloître et ils trouvent que la porte de la chapelle est ouverte. Hein. Et qui est-ce qu'ils voient dans la statue de la Vierge Marie? Le saltimbanque en train de faire ses pitreries, ses cochonneries, enfin ses obscénités devant la Vierge Marie. Les moines se précipitent pour saisir le mécréant, l'apostat, l'horreur. Coup de théâtre, la statue se met à bouger, la Vierge Marie étend son bras et bénit le saltimbanque qui meurt dans une extase mystique. Et les moines comprennent que c'est un saint. Mon christianisme est directement ancré dans ce genre de réalité-là. Le reste, les théories, la théologie, la doctrine, tout ce que vous voudrez, vient après. Il y a des expériences fondamentales et si je veux retremper ma foi, je vais à l'oratoire Saint-Joseph. Il n'y a rien à faire, ça marche.
Et pourquoi l'oratoire plutôt qu'ailleurs?
Il y a des pokés, il y a vraiment le peuple de Dieu que l'on voit. Et j'aime beaucoup cette expression, le peuple de Dieu, qui concerne tout le monde.
Il y a, vous avez cette formule, l'institution, la tradition, la philosophie, la théologie viennent après. Mmh. Et pourtant, elles viennent et probablement sont-elles nécessaires pour faire d'une culture une civilisation.
Tout à fait.
Pourtant, je suis convaincu, je ne doute pas que des gens encore aujourd'hui ont cette espèce d'expérience mystique ou d'expérience spirituelle première que vous venez d'évoquer d'une manière ou de l'autre. Pourtant, j'ai tendance à croire que ce qui vient après est aussi fondamental parce que c'est à travers ça que se joue le génie de notre civilisation.
Mais Mathieu...
Et surtout, je crois que c'est fondamental aussi pour vous. C'est-à-dire, lorsque vous tournez vers Simone Veil, lorsque vous vous tournez vers certaines... en musique, notamment, vous avez une culture musicale assez impressionnante... Quelle place joue pour vous ce après, tout ce qui n'est pas l'essentiel et qui est pourtant fondamental, l'institution, la tradition, la théologie, la philosophie, la culture, quelle place ça joue pour vous dans votre foi et dans votre manière d'être chrétien dans le monde qui est le nôtre?
Je vous réponds en inversant un petit peu votre question, de façon très simple. Sans tout cela, s'il n'y avait que des mystiques, le monde serait un bordel impossible. Il faut un cadre. Je reviens à ce que vous me dites de métapolitique et politique. Je ne dénigre pas le politique, mais à sa juste place. Enlever le politique, le métapolitique s'évapore dans un sentimentalisme cucu bonbon, absolument idiot et inutile. Les deux se nourrissent. Même chose, la philosophie, la musique, que sais-je. Ça soutient cette expérience première dont je suis à peine capable de parler. J'ai besoin d'un langage. J'ai besoin de manifestation de ce que j'appelle le Christ. Un Christ tout seul dans une psyché, au fond de l'âme, c'est bien gentil. Mais je suis un corps. Et un corps a besoin d'être organisé.
Vous évoquiez tantôt votre difficile insertion dans la société québécoise, appelons ça comme ça. C'est-à-dire, vous arrivez dans une, on parlait de ça avant la pause, une société mal structurée qui peine à transmettre sa culture, une société qui a même perdu sa propre foi, qui a perdu la religion de ses pères. Vous vous êtes intégré à cette société à laquelle vous apparteniez par la naissance, mais non pas par la culture. Vous êtes intégré à cette société en vous appropriant une part d'héritage qu'elle avait elle-même rejeté. C'est-à-dire le catholicisme, pour le dire poliment, dans le Québec contemporain, il n'a pas particulièrement bonne réputation.
C'est gentiment dit, oui.
Et donc, vous vous intégrez dans cette culture en vous appropriant ce qu'elle a rejeté. Quel regard posez-vous sur le statut du catholicisme aujourd'hui au Québec? Existe-t-il ailleurs que dans ces... Je reprends le mot, même si vous ne l'aimez pas beaucoup. Ailleurs que dans ces marges, existe-t-il ailleurs que dans certains oasis? Existe-t-il ailleurs que dans certains résidus ou dans certaines parts de la société qui se dérobent à la tendance générale? Et quel rapport entretenez-vous avec ce catholicisme spécifiquement québécois?
Il y a une chose, c'est que le monde catholique québécois n'a pas encore fait le deuil de ce ratage.
Ils ont encore la nostalgie du moment où ils étaient dominants?
Je le sens, notamment chez beaucoup de jeunes. Le petit reste se regroupe, et c'est tout à fait normal. Il faut qu'ils le fassent, du reste. Il faut qu'ils le fassent. Ça n'empêche pas que ce catholicisme peut exister dans d'autres milieux, notamment immigrants. Mais fondamentalement, j'aimerais que l'on... C'est pas qu'on mette la hache, mais qu'on se rende compte que le passé est le passé. Si on veut en retrouver la sève nourricière, mais il faut qu'il disparaisse. C'est-à-dire que il faut qu'on fasse, qu'on prenne acte de cela. De même pour les nationalistes qui prennent acte qu'il y a eu plusieurs ratages, rendez-vous manqués dans l'histoire. Une fois qu'on a fait le deuil d'une chose, on peut la retrouver d'une façon transfigurée. Je reviens à mon dada métapolitique, etc., ou métareligieux, si vous voulez. C'est un peu la même chanson que je vous fais. Le catholicisme existe ici encore. Il y a certaines pousses, il y a certains surgeons qui héritent ici et là. Et l'essence de l'Église catholique n'est pas dans le recensement, n'est pas dans le nombre de croyants, mais dans la fonction de levain dans la pâte qu'elle exerce. Qu'il n'y ait plus qu'un catholique au Québec, ce serait dommage. Mais à la limite, si ce dernier juste dans la cité, permet de maintenir une parole, un souvenir, un témoignage, un petit feu peut faire de grands feux. Vous savez, en Alberta, ils le savent.
Mais je reviens néanmoins là-dessus. Parce qu'on le lit dans votre ouvrage et on l'entend aussi dans nos conversations ici à ce micro quand vous êtes dans la position d'intervieweur. Vous avez un attachement particulier pour la religion des humbles.
Ah oui.
En fait, je dirais même peut-être davantage pour la religion des humbles que pour la religion de nos pères. Parce que la religion de nos pères était une religion sûre d'elle-même. C'était la religion du notaire qui va à la messe et qui ensuite redevient un notaire à temps plein. J'ai l'impression que alors si je fais cette distinction religion de nos pères, religion des humbles, c'est une distinction dans laquelle vous vous reconnaissez d'une manière ou de l'autre.
Tout à fait.
Et que retrouve-t-on dans cette religion, vous avez évoqué tantôt dans la religion, on pourrait dire la simplicité du regard qui a quelquefois une profondeur mystique qui manquera une intelligence trop sophistiquée. Mais qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans cette religion des humbles ici qui manque finalement au Québec d'aujourd'hui?
Ça me fait penser à cette phrase qu'on cite de Louis Pasteur tout le temps. Un peu de religion éloigne de Dieu, beaucoup de religion en rapproche. Les humbles n'ont pas, ils sont trop près du direct. Ils n'ont pas eu le privilège, si vous voulez, ou la grâce d'avoir un langage, une culture, tout un enrobage, tout un échafaudage pour pouvoir faire état de leur foi. C'est un atout, c'est aussi un défaut. Ils sont en un sens coincés dans l'immédiat. Et je ne suis même pas sûr qu'ils s'en rendent compte, et c'est très bien comme ça. Et c'est là où je trouve une vérité. Je ne nie pas, en revanche, l'utilité du notaire, etc. Parce que si on n'avait que des humbles, encore une fois, ça serait drôle. Hein? Je ne sais pas où on irait.
Mais je pose la question un peu autrement. J'ai quelquefois l'impression, quand j'étudie notre Québec, que, comme dans toute société, je dirais, le besoin de spiritualité, il est présent. C'est un besoin anthropologique. C'est pas très original que de noter cette évidence. Mais on pourrait dire que c'est une attente spirituelle ici qui ne parvient pas à reconnecter avec sa culture. C'est-à-dire que cette quête spirituelle, pendant quelques siècles quand même, au temps béni de la Nouvelle-France, pour reprendre ce moment de l'histoire pour lequel vous avez une affection, comme au temps du Canada français, la foi et la culture se réconciliaient ici, c'est-à-dire le besoin spirituel se canalisait dans une culture qui était catholique. Aujourd'hui, il y a une déconnexion. D'une certaine manière, on trouve des gens, peut-être un peu comme moi, qui sont attachés à l'héritage catholique sans être croyants, donc qui veulent le maintenir en vie à la manière d'un héritage identitaire sans pour autant l'investir d'une foi. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont la foi, mais qui ne trouvent plus dans le catholicisme ou dans l'héritage catholique même le langage pour dire leur foi.
Exact.
Comment expliquez-vous cette dissociation?
Dans les années 60, beaucoup d'éléments ont quitté l'Église catholique. Et c'était bien qu'ils le fassent. Très souvent, c'est les plus intelligents qui ont quitté l'Église. Tout ce qui avait culture, tout ce qui était allé en Europe, tout ce qui avait pu avoir un doctorat alors que le père ou la mère était à peu près analphabète, la plupart sont sortis de l'Église. Il y a eu beaucoup d'ingratitude aussi. Je pense qu'on est une société extrêmement moderne dans ce sens-là, moderne par son ingratitude face au passé. On a été catapulté dans quelque chose d'absolument inouï. Dans la modernité. On n'a pas pardonné au passé. Donc, les gens qui avaient la faculté d'analyser, de comprendre, de mettre en perspective, s'étaient dit, je ne veux pas me faire berner encore par l'Église. Maintenant, je suis hors Église. L'Église a gardé très souvent les humbles, les modestes. En région, il y a beaucoup plus de croyances. Sans doute parce qu'il n'y avait pas la présence du clergé ultramontain aussi forte qu'en ville. Mais ça, je demanderais à me faire corriger le cas échéant. Et je sais pas, comment vous dire, on a eu honte de notre histoire au Québec. On a appris à avoir honte. En ce sens, on est fortement colonisé, encore maintenant. Et donc, on a honte de ce catholicisme. Et pourtant, c'est ce catholicisme qui fait qui nous sommes. J'aimerais, en dehors de toute tonitruance, de grandiosité, qu'on reconnaisse humblement ce qui a fait notre génie.
Vous êtes... il nous reste à peine 5 minutes, un peu moins même. J'aimerais revenir sur une considération plus générale sur à la fois votre pensée et sur le Québec. Si je devais vous dire... moi, j'ai tendance à croire que sauf ceux qui le refusent radicalement l'étiquette, tous sont nationalistes d'une manière ou de l'autre. Mais imaginons que je cherche à vous néanmoins vous coller une étiquette parce qu'on ne peut pas s'en sauver complètement. Je dirais de vous que vous êtes un patriote sans être un nationaliste. C'est-à-dire, vous avez un attachement à ce pays, vous avez un attachement à ce coin du monde dans lequel vous faites votre vie, sans pour autant embrasser la légende nationaliste telle qu'elle est vécue par d'autres. Je crois aussi, lorsque je vous entends, vous avez quand même vous présenté le Québec comme une société blessée, au fond d'elle-même. C'est pas une blessure récente, c'est pas une blessure superficielle. Il y a quelque chose dans l'âme québécoise qui est blessée, qui est mutilée.
Et qui m'attire énormément.
Mon Dieu, alors là, vous devancez ma question. Vous nous invitez souvent à nous réconcilier avec la part de douleur en nous pour être capable d'en faire quelque chose d'autre.
Toujours.
Avec quoi le Québec doit-il se réconcilier pour, si ce n'est pas renaître, si ce n'est pas se redresser, à tout le moins se revivifier, à tout le moins reprendre pied dans sa propre histoire?
Avec sa blessure. Bon, je ne veux pas jouer au psy, hein, mais le Québec doit savoir qu'il y a eu un rêve qui a avorté. C'est douloureux à assumer. Ça nous permettrait, ce faisant, de renouer avec notre part tragique. Nous ne sommes pas le plus grand peuple du monde. Nous n'avons pas l'histoire la plus riche du monde. Mais nous sommes un peuple réel, vaillant, auquel j'aimerais adjoindre aussi certaines sensibilités autochtones. Ça, c'est aussi un de mes... Je le fais pas du tout par culpabilisation de l'homme blanc ou parce que c'est à la mode de dire pardon aux autochtones. C'est pas ça la question. Il y a un fond ontologique, il y a un fond spirituel qui est très riche.
Vous êtes polyglotte, vous avez vécu ailleurs, vous avez une sensibilité pour les cultures étrangères. Vous pourriez quitter. Vous en avez probablement même déjà eu la tentation. Pourquoi restez-vous ici?
Puisque mon rôle est de poser des questions, maintenant je vais vous répondre, pourquoi pas?
Ah, mais ça, je peux le comprendre. Moi, il n'y a rien de plus évident qu'habiter le Québec pour moi. Ça, il n'y a pas de doute.
J'aurais l'impression, Mathieu...
Donc, il y avait une familiarité avec tant d'autres cultures et qui fait le constat des limites de la nôtre et qui n'y adhérait pas immédiatement. Non, c'était le sens de ma question, c'est-à-dire...
J'y adhère immédiatement, Mathieu, excusez-moi. Mais j'y adhère par sa blessure. J'essaie tout le temps... Il y a certaines choses sur lesquelles je ne fais aucun compromis, notamment la langue. Et je n'ai aucun mérite. Je ne peux pas me mettre à parler d'autres langues ici, surtout l'anglais. J'adore l'anglais, ma mère est britannique, si vous voulez. Mais ça ne passe pas, sauf exception. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de très sympathique, pourtant pour les nationalistes. C'est ça le paradoxe.
Oh, quand même. Vous connaissez la belle formule, vous êtes un compagnon de route égaré.
Alors écoutez, que la brebis égarée puisse retrouver son seigneur, je n'attends que mon pasteur, je le cherche encore.
Alors Jean-Philippe Trottier, il nous reste à peine une minute, je me permets une dernière question tout simplement.
Allez-y.
Quelqu'un qui découvre votre œuvre, alors il y a 3 livres en ce moment, quel sera le 4e?
Il portera le titre numéro 4, je ne sais pas. Et je travaille à un manuscrit pour l'instant, encore une fois dans le siège du christianisme, avec une idée qui m'obsède, c'est l'unité. Nous vivons des sociétés hyper morcelées, nos droits de l'homiste, notre judiciarisation à l'outrance de l'identité humaine, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit n'importe quoi, a fait que nous sommes tellement libres que nous sommes morcelés, et c'est le début de du totalitarisme qui va venir dans pas trop longtemps. J'ai bien peur.
Alors Jean-Philippe Trottier, nous aurons l'occasion de nous revoir, parole par ailleurs crépusculaire, nous aurons l'occasion de nous revoir lors de la publication de ce prochain livre. C'était un immense plaisir de vous avoir à ce micro aujourd'hui. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Et chers auditeurs, c'était la dernière de la saison de La Vie des idées. Nous nous retrouverons au mois de septembre pour une nouvelle saison de cette émission qui cherche à éclairer les enjeux de la cité à la lumière de la vie intellectuelle. Merci beaucoup.